Chapitre 48. Dans la nuit, voyant le marquis perdu et jugeant qu'il ne recouvrerait pas sa connaissance, Clémence avait eu la pensée de se rendre à ses appels incessants et d'envoyer chercher Denise. Elle était agacée de l'entendre répéter ce nom d'instant en instant. Surtout, elle était inquiète de ce que ses appels avaient pour témoin la sœur de service et le prieur. Qui pouvait savoir si, plus tard, le témoignage en justice de ces gens ne viendrait pas prouver qu'elle avait étroitement gardé le lit de mort du marquis. Mais c'était là une résolution tellement grave et qui pouvait amener des conséquences si désastreuses qu'elle n'avait osé la prendre avant la visite du médecin. Elle voulait être certaine qu'elle ne se trompait pas et que cette entrevue entre le marquis et Denise, loin d'être un danger pour le présent, devait être une bonne précaution pour l'avenir. Cette certitude obtenue, elle n'avait donc pas hésité à présenter comme accompli ce qui avait été différé. À cela, il y avait l'avantage de paraître maître de l'empressement à satisfaire les désirs du mourant, et en même temps, il y avait encore cela de bon que Denise arriverait seule au château et non en compagnie du médecin. Quand elle fit part de cet arrangement à M. de Carquebut, celui-ci poussa les hauts cris. « Les portes fermées, je ne connais que ça. » Mais elle finit par lui faire comprendre que s'il était bon de tenir les portes fermées pendant un certain temps, il pouvait être habile de les ouvrir à un moment donné pour prouver qu'elles avaient été toujours ouvertes. « Alors, nous allons voir arriver cette maudite fille de comédienne. »« Et aussi votre cher neveu. »« Mais êtes-vous certaine au moins qu'Arthur ne les reconnaîtra pas ?» C'est jouer avec le feu. Venez le voir et jugez-en par vous-même. C'est que, voyez-vous, je n'aime pas le spectacle de la mort. Ça donne de tristes pensées. Je vous croyais immortel. Pas de plaisanterie à ce sujet, je vous les défends. Depuis 2 jours, M. de Carquebut n'était pas entré dans la chambre du marquis. En se trouvant en face du moribond, il fit malgré lui 2 pas en arrière. Déjà, la mort l'avait frappé. Couché sur son oreiller, que ses cheveux recouvraient de longues mèches blanches éparses çà et là, il haletait péniblement. Sa chemise déboutonnée au cou laissait voir sa poitrine décharnée, qui se soulevait par des mouvements irréguliers. Ses yeux grands ouverts ne regardaient rien. Des gouttelettes de sueur perlaient sur son visage. Ses mains, de temps en temps, se crispaient sur le drap et, dans le silence, on entendait les ongles gratter la toile. Ce silence qui emplissait cette grande chambre n'était troublé que par un faible murmure de voix, celle de la sœur qui, agenouillée au pied du lit, priait tout bas et celle du prieur qui, dans la pièce voisine, récitait les prières des agonisants en articulant chaque mot de manière à bien prouver qu'il employait consciencieusement le temps qu'on lui payait. « Denise !» appela le marquis. « Denise !» Et son visage prit une expression d'angoisse et d'effroi, tandis que ses mains se tendaient en avant. M. de Carquebut, bien que peu sensible, se sentit étouffé. Clémence, qui le regardait, le vit pâlir au point qu'on pouvait croire qu'il allait éprouver une défaillance. « Eh bien, dit-elle, qu'avez-vous »« Je n'aime pas ça, » murmura-t-il. Et, marchant à reculons, il passa dans la chambre où se tenait le prieur. Il voyait trouble et les murs dansaient autour de lui. Heureusement, une odeur de rhum vint fort à propos le réconforter. En effet, sur la console à laquelle il s'était cramponné d'une main convulsive, était posée une bouteille débouchée, à laquelle le prieur demandait de temps en temps de la salive et des forces. M. de Carquebut prit cette bouteille et, l'approchant de son nez, il la flaira en l'agitant doucement. « Bon rhum, disait-il, bon rhum !» Puis il sortit, répétant machinalement ces 2 mots. Alors Clémence reprit, dans un fauteuil disposé auprès d'une fenêtre, la place que depuis le commencement de la maladie du marquis, elle occupait jour et nuit. Mais bientôt, le roulement d'une voiture retentit sur le gravier de l'esplanade. Clémence souleva le rideau, c'était Denise avec une religieuse. Le moment critique était arrivé. Quittant son fauteuil, Clémence vint s'asseoir sur une chaise basse, placée tout contre le lit. À peine avait-elle eu le temps de prendre une attitude recueillie, que la porte de la chambre s'ouvrit vivement et Denise entra. Le premier mouvement de Clémence fut de se tourner vers elle. Mais après un rapide coup d'œil, elle revint au marquis. Le principal personnage du drame qui commençait n'était pas Denise, c'était le marquis. C'était lui qu'il fallait observer. Denise s'était approchée du lit et après s'être agenouillée, elle avait pris la main du marquis et l'avait embrassée. Le marquis n'avait pas bougé. Alors Denise, épouvantée, s'était à demi tournée vers Clémence, l'interrogeait de ses yeux pleins de pleurs. « Oui, dit celle-ci à voix basse, il est bien mal. »«
Oh, mon Dieu, mon Dieu !» murmura Denise.
Et de nouveau, elle embrassa à plusieurs reprises la main du moribond en la mouillant de ses larmes chaudes. À ce contact et sous l'impression de ses larmes, le marquis parut se ranimer.
« Denise, dit-il, Denise !»
C'était le même nom que depuis la veille il a fait prononcer tant de fois et qu'il répétait encore sur le même ton, c'est-à-dire en appelant et non en répondant.
« Oui, c'est moi, dit-elle, moi, Denise !»«
Denise ? » murmura-t-il en changeant de ton et comme s'il se posait à lui-même une interrogation. Elle s'était levée et s'était penchée sur lui.
« Je suis là, près de vous, mon parrain !»
À ce mot, qu'il avait entendu si souvent et qu'elle venait de prononcer avec la même intonation qu'autrefois, il tressaillit et, dans son regard éteint, on vit passer une flamme.
« Regardez-moi » continua-t-elle. « Reconnaissez-moi, mon parrain !»« Mon parrain ? » répéta-t-il.
Clémence suivait cette scène avec inquiétude. Allait-il retrouver sa connaissance ? Depuis 6 ou 8 heures, il n'avait pas donné ses signes de vie. Une lutte se livrait en lui, lutte terrible contre la mort qui avait commencé à l'envahir. Quel allait en être le résultat ? Pendant qu'elle se posait cette question, il avait fait des efforts pour tourner sa tête vers Denise et il la regardait. Ce n'était pas un œil éteint qu'il attachait sur elle, c'était un vrai regard, vivant, sensible. Étendant doucement la main et la lui posant sur l'épaule, il la repoussa doucement pour mieux la voir. Pendant plusieurs minutes, il la regarda. Ses lèvres s'agitaient comme si tout bas elle murmurait des mots sans suite.
« Parlez, dit-il. Voulez-vous parler ? Que voulez-vous savoir, mon parrain ?
Sa voix, dit-il sans répondre.
C'est sa voix. Cependant, vous n'êtes pas Denise. »
Clémence fut effrayée de ce mot. Il l'eût reconnue, elle eût été moins inquiète. Mais pour qu'il distinguât entre la voix et le visage, il fallait qu'il fût capable de raisonner. De notre côté, pour qu'il ne la reconnût pas, il fallait que la mémoire lui fût jusqu'à un certain point revenue pour lui rappeler la jeune fille dont il était séparé depuis 2 ans et qu'il ne retrouvait pas dans celle qui était là devant lui. Ces 2 années avaient en effet apporté des changements considérables dans toute la personne de Denise. Elle avait grandi, ses épaules s'étaient élargies, sa poitrine s'était développée et son visage avait pris un caractère de beauté calme et sereine qui avait remplacé sa vivacité et sa naïveté enfantine. Ce caractère était encore accentué en ce moment par le costume sévère qu'elle portait, la robe grise d'uniforme avec une sorte de capuche en laine noire sur laquelle se détachait une croix en argent. Ceux qui avaient vu Emma Lajolet jouer à 20 ans le rôle de la pensionnaire dans le vaudeville de ce nom auraient cru la retrouver dans cette jeune religieuse, tant était maintenant frappante la ressemblance entre la fille et la mère. Ce fut ce souvenir qui traversa l'esprit troublé du marquis.
« Emma, dit-il. »
Mais aussitôt, par un enchaînement d'idées bien naturelles, le sentiment de la réalité éclaira son esprit.
« Denise ! » s'écria-t-il d'une voix plus forte.
Puis, l'attirant à lui,
« Ma fille ! Ma fille !»
Clémence se dressa comme si elle avait été soulevée par une commotion électrique.
Trop tôt. Elle avait permis cette entrevue trop tôt. Il n'était pas aussi mort qu'elle l'avait cru et que le docteur Gillet l'avait cru lui-même. Maintenant, qu'allait-il se passer? Tout était possible. Pour elle, tout était à craindre. Elle avait entendu parler de mourants qui, à la dernière extrémité, sous l'impulsion d'une émotion violente, avaient retrouvé un reste d'énergie pour lutter contre la mort. Allait-il en être ainsi pour le marquis? Tout en réfléchissant, elle ne le quittait pas des yeux. Denise, penchée sur lui, l'embrassait en pleurant.
« Me voilà, disait-elle, je vais rester près de vous. Ne vous tourmentez pas, mon parrain. »
« Ne m'appelle pas ton parrain, appelle-moi ton père. Tu es ma fille. »
S'étant à demi relevée, elle le regardait avec étonnement. Que disait-il? Autrefois, il ne l'avait jamais tutoyée.
« Ma fille! Ma fille !» répétait-il.
À ce moment, il aperçut Clémence, qui, dans son angoisse, s'était peu à peu rapprochée et le regardait par-dessus l'épaule de Denise. Il ferma les yeux, mais bientôt, les rouvrant,
« Je voudrais qu'on me laissât seule avec Denise, » dit-il d'une voix distincte.
Aussitôt, la sœur, agenouillée au pied du lit, se leva pour sortir. Mais comme Clémence ne paraissait pas disposée à la suivre, elle s'arrêta au milieu de la chambre, se demandant évidemment si elle devait obéir au marquis. Clémence comprit cette hésitation. Un moment, elle se demanda ce qu'elle devait faire. Fallait-il rester quand même? Fallait-il au contraire laisser le marquis et Denise ensemble? Elle s'arrêta à ce dernier parti. Jusqu'à ce jour, elle avait toujours paru se conformer avec empressement au désir du marquis quand elle n'allait pas au-devant. Il ne lui convenait pas de lui désobéir au dernier moment devant des témoins qui pourraient chercher les raisons de cette désobéissance extraordinaire et facilement les trouver. Ne pouvant pas maintenant empêcher le marquis de parler, ce qui était important, c'était de savoir ce qui se dirait entre lui et Denise. Pour cela, rien n'était plus facile. Il n'y avait qu'à se cacher derrière la portière, d'où elle avait déjà entendu la demande que le marquis avait adressée au docteur Gillet. Lorsqu'elle connaîtrait le nouveau danger qui la menaçait, elle aviserait à le détourner. Elle fit donc signe à la sœur de sortir, et elle la suivit.